J'étais venu une fois, il y a quelques temps, pour voir Clément, parce que pour me situer, c'est un petit peu, je suis le Clément, l'évêque de Lagny-sur-Marne, avec mon Philippe à moi, c'est Ruben, que vous avez vu le 5 juillet, prêcher ici, il me semble. Hein. Donc ouais, j'étais en stage et en formation à l'IBG à Genève, puis en juin, j'ai eu ce diplôme de l'Institut public de Genève. Et puis le Seigneur nous appelle à la rentrée, en tout cas pour ma part, à être dans une implantation d'église sur l'Est parisien. Et mon épouse Lise, que certains connaissent en tout cas, sera nommée à l'hôpital de Créteil, pas loin d'ici, en tant qu'aumônière sur les 5 hôpitaux de la Coin. Donc on va être un peu plus local de par la famille. Donc voilà, et ça c'est pour, en cet été, j'ai cet honneur de pouvoir être parmi vous, réfléchir ensemble sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire ce matin? Et qui dit été dit vacances. Et qui dit vacances dit joie et bonheur, n'est-ce pas? En tout cas, c'est ce qu'on nous dit, puisque un récent sondage de l'IFOP de 2025 nous dit que 61% des Français associent les vacances à la joie et au bonheur. Et puis quand on revient au travail, vous savez, on est devant la machine à café après le travail, et puis on nous dit « alors c'est vacances », et on est quasiment obligé de dire que c'était super, c'était génial, les meilleures vacances, etc., etc. Vous connaissez le truc pour ceux qui travaillent. Voilà. On est obligé dans notre société de dire que les vacances, c'est la joie et le bonheur. Mais peut-être que pour vous, cet été, en fait, ce n'est pas forcément la joie et le bonheur. Ce n'est pas toujours le cas de nos dispositions de cœur, même en plein été. Il y a des moments qui sont difficiles dans la vie à vivre. Et peut-être que tu vis en cet été un temps qui est difficile à vivre. Alors, je ne parle pas des moments gâchés comme le 14 juillet où on prend deux buts, on s'en remettra, ni même des canicules qui ont été difficiles à vivre pour beaucoup d'entre nous dans ces nuits insupportables. Non, je pense qu'il y a des moments encore plus difficiles à vivre que cela. Peut-être qu'en cet été, toi, tu vis des inquiétudes par rapport à ton avenir. Tu te demandes qu'est-ce que je vais faire dans mon avenir professionnel, qu'est-ce que je vais prendre comme option. Difficile comme choix, très difficile. Ça me rappelle mon fils qui a 16 ans qui, lui, ne sait pas ce qu'il va devoir faire. Des moments difficiles à vivre. Comment j'oriente mon avenir? Peut-être que pour certains, certaines en tout cas, vous avez vécu des fêtes des mères sans enfants, sans être maman, malgré l'envie profonde d'être maman. Et vous étiez dans le désarroi quand ce bébé n'était pas là. Peut-être que pour certains, vous vivez dans les tourments de la vie de couple, qui malheureusement ne sont pas aussi beaux qu'espérés. Peut-être des moments difficiles à vivre. Peut-être que pour d'autres, tu gardes l'angoisse de la maladie qui est là, qui s'installe, et qu'on n'arrive pas à résoudre. Et ces moments sont encore plus difficiles à vivre. Avec ces questions, c'est pourquoi, ces cris. Et c'est dans ce genre de moment où on a des questions vraiment profondes à Dieu, où on a le désespoir, les pourquoi, et on interpelle Dieu. Dans ces moments-là, on ressent différentes émotions. Un grand vide, pour ceux qui l'ont vécu, un grand vide à l'intérieur qui ressent. On se dit, mais rien ne peut le remplir. Un cœur qui est lourd sans trop savoir pourquoi. Une impression de ne pas avoir le mode d'emploi de la vie, finalement. Un orage permanent dans la tête. Alors j'ai conscience que face à ces pourquoi, à cette profondeur de cette question, on ne va pas résoudre le souci ce matin. Il y aura des pourquoi encore tout au long de notre vie, tant qu'on n'est pas devant notre Seigneur à qui on pourra poser les bonnes questions. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Ce matin, je vous propose de prendre la parole de Dieu qui peut nous aider à surmonter ces moments de vie difficiles. Pour ceux qui sont dans la joie, et merci Seigneur, il y en a probablement parmi nous, je propose que ce soit aussi une opportunité de regarder comment avec la parole de Dieu on peut encourager nos frères, nos sœurs qui vivent ces moments difficiles. Comment vivre les moments difficiles de la vie? Alors je propose de prendre le livre de Samuel, qui est la page 191 dans les Bibles de l'Église. Dans le premier livre de Samuel, premier chapitre. Et l'auteur, il va commencer son histoire par l'histoire d'Anne. Les moments difficiles à vivre pour Anne, c'est notamment quand chaque année, elle doit aller au temple de l'Éternel, qui est localisé à cette époque dans une ville qui s'appelle Silo. Elle doit participer à cette fête de reconnaissance à Dieu, alors qu'elle vit dans la détresse existentielle. Anne, c'est une juive qui vit 300 ans après la sortie d'Égypte et de Moïse, qui a reçu les tables de la loi, alors prince de l'Égypte, hein, pour ceux qui veulent le situer un peu plus. C'est le moment fort où le peuple de Dieu, il a été libéré de l'esclavage, de l'oppression des Égyptiens. Puis après un passage dans le désert, il y a eu des juges, des rois qui ont été nommés et qui ont régné sur le peuple de Dieu. Puis après, petit à petit, ça s'est mal passé, il y a eu des divisions, le peuple s'est divisé, il y a eu guerre civile, désarroi par l'envahissement aussi des ennemis du Nord. Et c'est probablement à ce moment-là que l'auteur écrit. C'est une situation où ils sont asphyxiés par les taxes que soumettent les ennemis du Nord à ce peuple d'Israël. Et là, l'auteur, il écrit ce passage qui forcément doit enseigner des choses à ses premiers lecteurs qui vont lire ce livre de 1 Samuel. Dieu semble les avoir complètement abandonnés à leur sort. Il y a des moments difficiles dans la vie à vivre, des moments où les questions se posent, les cris de désespoir sont là pour le peuple d'Israël. Alors imaginez-vous face à cette situation en tant que premier lecteur de ce livre qui est là devant nous. Comment en est-on arrivé là? Alors qu'on est le peuple de Dieu, on était le peuple élu, comment on a pu en arriver à cette situation-là? Et l'auteur des livres a expliqué tout au long de ces livres de 1 et 2 Samuel comment on doit choisir son roi. Et il va développer toute l'histoire de la royauté, mais il va commencer pour illustrer la grande histoire par une petite histoire, la petite histoire d'Anne. Anne, c'est une femme qui est mariée à un homme qui s'appelle Elkana, un homme pieux. Et Anne, elle, a ses moments difficiles. On va voir pourquoi. Et je vous propose de découvrir en trois étapes ce que va vivre Anne dans ses premiers chapitres. On va voir que Anne, elle est confrontée à la détresse existentielle. On va voir ça dans les 8 premiers versets. Puis on lira dans un deuxième temps, les versets 9 à 11, qu'elle va faire une prière où elle va confier son avenir à Dieu. Et on finira la lecture avec la fin du chapitre, avec les versets 12 à 28, où on va voir qu'on mesure comment cette prière va transformer la vie de Anne. Moi, ce qui me marque dans ce passage, c'est vraiment que se laisser influencer par les autres, ça n'apporte pas la paix dans les difficultés de la vie. Mais que confier son avenir à Dieu par une prière transforme la vie. Confier son avenir à Dieu par une prière transforme la vie. Je propose de prier avant de lire la parole de Dieu. Notre Dieu, dispose nos cœurs, qu'on puisse vraiment entendre ce que tu veux nous dire, chacun spécifiquement dans notre vie, dans notre temps de vie qu'on est en train de vivre, dans notre saison de vie. Seigneur, tu puisses vraiment nous parler ce matin, que je puisse m'effacer devant ta parole et laisser toute ta parole parler à chacun ce matin. Je prie en ton nom. Amen. Et dans cette première partie, il me semble que l'auteur veut nous montrer que se laisser influencer par les autres n'apporte pas la difficulté de la vie. Je vous propose de lire les 8 premiers versets ensemble de 1 Samuel, page 191. Il y avait un homme de Ramathaïm Sophim, de la région montagneuse d'Éphraïm, du nom d'Elkana. Il était le fils de Jéroam, fils d'Éliou, petit-fils de Tohu, et arrière-petit-fils de Tsouf, et était Éphraïmite. Il avait deux femmes, l'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis que Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait à la ville, de sa ville jusqu'à Silo, pour adorer l'Éternel, le maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, qui étaient prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais à Anne, il donnait une portion double, car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendue stérile. Sa rivale l'a provoquée pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en allait de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la provoquait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Son mari Elkana lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Jusqu'ici, la parole de Dieu. Et on voit que l'auteur introduit l'histoire en nous décrivant un homme pieux, Elkana, en pleine communion, lui, avec son Seigneur, l'Éternel. Chaque année, il monte à Silo, c'est une journée de marche de là où il habite. Alors pourquoi Silo? Parce qu'à Jérusalem, il n'y avait pas le temple encore, on n'était pas du tout à cette époque-là. Le temple, c'était la tabernacle, la tente qui était dans cette ville de Silo depuis l'époque de Moïse. Et ils viennent à cette fête qui est la plus importante de l'année. C'est une fête censée être pleine de joie pour remercier Dieu de toutes les grâces reçues, dont les récoltes qui ont eu lieu dans l'année. C'est vraiment, on peut l'imaginer, comme le Nouvel An chinois. Ça dure 8 jours et c'est la fête en Chine, je parle, où on se réunit tous, on retourne en famille et on se retrouve là à faire la fête, la joie. C'est un peu cette ambiance-là qu'on a. Tous ceux qui viennent ici sont dans la joie. Ils montrent leur gratitude à Dieu en offrant à Dieu et les prêtres à son service une part de toutes les richesses et toutes les bénédictions données par Dieu au cours de l'année écoulée. Waouh ! La joie est là. Moment de fête pour tous, sauf pour Anne. Pourquoi ? Parce qu'elle est stérile et elle n'a pas d'enfant. Alors permettez-moi une question toute bête, mais réservée aux hommes. Est-ce que c'est si grave que ça de ne pas avoir d'enfant ? Alors vous, les femmes, vous connaissez bien ce... Il y a 3 raisons qui nous l'expliquent, mais la première, c'est que pour nous, les femmes, vous connaissez bien ce côté, ce besoin d'être maman, ce besoin fort qui est ancré en nous. La deuxième raison qui peut expliquer que c'est hyper important de ne pas avoir d'enfant, c'est qu'à l'époque, quand on n'avait pas d'enfant, en fait, on n'avait pas de sécurité financière. Un enfant, ça permettait de pouvoir, quand il sera plus grand, de commencer à faire les récoltes et d'assurer la retraite, en fait. C'est pas de sécu, pas de retraite si on n'a pas d'enfant. La troisième raison, c'est une question d'honneur. Je note que dans la culture d'honneur, comme celle de Anne, ne pas avoir d'enfant, ne pas pouvoir honorer finalement le pourquoi elle doit être femme et mari de son d'Elkana, c'est une marque de déshonneur très forte. Et je pense qu'à sa mort, vous comprenez bien cette notion d'honneur, c'est comme perdre la face. C'est cette même notion qu'on a ici, perdre la face. Et on voyait même cela comme une malédiction de Dieu, le texte nous le dit. Alors pour Anne, ce drame, il est existentiel et il est dû à la stérilité. Mais la maladie, le chômage, la célibat, la précarité nous plongent aussi dans ce genre de drame existentiel. Alors face à ce drame existentiel, quelle influence subit Anne ? L'auteur continue son histoire dans les versets 4 à 8 pour nous décrire les 2 influences culturelles qu'entend Anne autour d'elle. La première influence, je ne sais pas si vous l'avez noté, la première influence, c'est celle de la deuxième femme d'Elkana. Alors, je fais une petite parenthèse. Ce n'est pas parce qu'il y a une deuxième femme que la Bible encourage la polygamie. C'est juste qu'on est dans le contexte de cette époque. Et à cette époque-là, il y avait des gens qui avaient plusieurs femmes. C'est le cas d'Elkana. Mais vous pouvez noter aussi qu'à chaque fois qu'il y a 2 femmes dans la Bible d'un homme, c'est toujours le bazar. Il y a toujours des disputes. Prenez tous les patriarches, c'est toujours compliqué. La Bible n'encourage pas la polygamie, mais fait juste état d'un fait historique à cette époque. Deuxième erreur qu'on pourrait faire à la lecture de ça, serait de croire que l'Éternel amène le mal. Et en fait, pas du tout, pas du tout. C'est pas ce que le texte nous dit. La Bible nous présente Dieu comme souverain de tout, certes, mais aussi de cette situation de stérilité. Mais c'est le péché des hommes qui fait entrer les problèmes dans la vie des hommes. N'inversons pas les rôles en accusant Dieu. N'inversons pas les rôles. Je ferme la parenthèse sur le cas de Elkana avec sa deuxième femme. Mais revenons à Pénina qui provoque Anne. Vous avez vu au verset 6, lisez avec moi verset 6, quelle influence Pénina a sur Anne ? Sa rivale l'a provoquée pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Waouh ! On peut imaginer les moqueries et le fond cruel et faux de cette dame si jalouse de Anne. Chaque année, au moment de la fête de reconnaissance de la joie, lors de ses sacrifices de communion et de paix, on peut l'entendre dire un peu, c'est pas écrit comme ça, mais c'est à cause de ton péché que tu es stérile. Dieu ne t'aime pas. Et c'est pour ça que tu es stérile et que tu ne peux pas avoir d'enfant. Pénina pourrait dire, moi, mon avenir, il est radieux avec tous les enfants que j'ai, tandis que toi, tu t'en sortiras pas. Tu ne seras heureuse que lorsque tu auras un enfant. Vous voyez ce genre de remarques que pourrait dire Pénina et de moquerie. Mais comme le souligne Tim Keller, c'est en fait elle est juste influencée par sa propre culture. Pénina rapporte à Anne ce que la culture de son temps impose aux femmes. Il faut avoir un enfant. Et aujourd'hui, les injonctions de notre monde sur les femmes est tout aussi oppressif. Elles doivent aller travailler, elles doivent faire carrière, avoir des enfants, les éduquer, faire des sorties aussi entre copines, être fine aussi au passage, être sportive. Bref, des sollicitations, il y en a beaucoup par rapport à la culture qu'elle nous impose. Mais finalement, on est tous influencés, que ce soit des hommes, qu'on soit femme ou homme, on est tous influencés par notre culture d'aujourd'hui, du moment. Sécurité financière, jouer au piano. Plus important, c'est de prendre du temps pour ta famille, pas forcément avec Dieu. Alors Jennifer nous disait que c'est le contraire. Pour elle, elle aime bien et ça, c'est une contre-culture. Mais si on ne se conforme pas au message de notre culture environnante, on est stigmatisé, rejeté. Je ne sais pas si certains ou certaines l'ont vécu déjà. Pas besoin de beaucoup d'imagination pour entendre dans notre propre vie ces oppressions qui nous entourent, ces propos qui se moquent de notre foi. Et pire, de notre Dieu. À quoi il sert ton Dieu ? T'as plein de souffrances, tes difficultés dans ta vie. Personne t'aime. Même pas ton Dieu. Sinon, il aurait réglé la situation dans laquelle tu vis. Il t'aurait pas permis de vivre tout ça. Voilà la première influence que subit Anne. L'oppression de notre culture ambiante veut aussi nous éloigner de l'amour de Dieu et d'une relation paisible avec lui. Et Anne, vous avez vu les conséquences ? Elle est très impactée par ça, profondément impactée. Elle subit passivement depuis des années cette influence de Pénina. Et tout comme ces épreuves que certains vivent encore aujourd'hui, nous sentons dans ces moments un vide, le cœur lourd. Ces épreuves qui nous font tant de mal, qui nous plongent dans le désarroi avec Dieu. Fade. Une relation avec Dieu qui est fade, triste, sans relief. Ça, c'est les conséquences possibles. Et puis on entend quand même ces appels du monde et de la chair qui nous disent « Éloigne-toi de Dieu, irrite-toi contre lui. » La deuxième influence que subit Anne est celle de son mari. Vous avez regardez avec moi verset 8. Qu'est-ce qu'on peut voir ? C'est qu'il l'aime profondément. Il l'honore à tel point qu'il lui donne une double portion, donc en signe d'honneur, il lui donne une double portion des sacrifices. Alors même que finalement, elle ne répond pas aux attentes normales de son époque, d'une épouse envers son mari. On sent Elkana qui est attentionné, aimant à travers ce que nous dit le texte. En fait, c'est comme s'il disait « Tu seras heureuse en comptant sur mon amour de moi en tant que mari. » Lui aussi, au fond, propose une autre solution dans ce drame qui éloigne Anne de son Dieu. Il propose « Son amour remplace celui de Dieu. » Voilà la solution que propose Elkana. Et quelle est la réaction d'Anne à ces deux influences ? Alors, je vous propose de regarder le texte. Regardez avec moi ce que dit le texte, la réaction d'Anne sur ces deux influences. Ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de réaction. L'auteur ne nous livre aucune réaction d'Anne. Anne ne réagit à aucune influence. Elle subit seule, sans rien dire, ces influences qui l'éloignent de l'amour de Dieu. Même l'amour d'un homme ne peut remplir le cœur vide d'Anne. C'est peut-être un signe à identifier pour ceux qui veulent aider une personne qui souffre, quand on se renferme comme ça et qu'on ne dit rien. Alors dans cette première partie, il me semble que l'auteur veut montrer une chose à ses premiers lecteurs, vous vous souvenez qu'ils sont en plein désarroi. Ne vous laissez pas influencer par les peuples environnants et même par l'amour que vous pourriez vous porter les uns aux autres. L'influence des autres n'apporte pas la paix au milieu du désarroi. Un roi humain, quel qu'il soit, n'apporte pas durablement la paix et la sécurité. C'est l'expérience du peuple de Dieu pendant des centaines d'années. Dans cette première partie, l'auteur veut nous montrer que le se laisser influencer par le monde n'apporte pas la paix dans les difficultés de la vie. Alors dans nos vies, mais aussi dans la ville, la communauté à Saint-Maur, on peut être plongé dans le désarroi, dans des questions existentielles. Il y en a peut-être plusieurs, il y en a peut-être une qui est comment on réagit, comment on doit évoluer en tant qu'Église par rapport à la partie sinophone. Comment on doit faire ? Peut-être que c'est une question existentielle pour l'Église de Saint-Maur. Ne nous laissons pas influencer dans nos questions existentielles par le propos et le raisonnement des hommes. Ils ne peuvent pas apporter la paix. Alors, que faire, vous allez me dire? Comment réagir? Comment va réagir Anne jusqu'à là, qui est bien passive? Je propose de voir la suite de notre passage, versets 9 à 11. Et on va voir que Anne ne se conforme pas au message entendu. Elle va confier son avenir à Dieu par une prière magistrale, versets 9 à 11. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège, près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant. « Éternel, maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas à ta servante, si tu n'oublies pas ta servante et tu lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Vous avez remarqué ce détail? Anne se leva. Fini la passivité, elle rentre en action. Anne, enfin, réagit. Elle a compris qu'elle devait agir, qu'elle devait arrêter de subir dans sa détresse existentielle. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire un choix impactant qui va transformer sa vie, toute sa vie. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prier. Elle va prier l'Éternel. Et dans cette prière, elle va confier toute sa détresse. On a le droit de confier nos détresses à l'Éternel dans ces moments de désarroi. Elle va confier sa peur d'être oubliée de Dieu. Et surtout, elle va confier son avenir à Dieu. Ce fils tant désiré, source d'espoir pour son avenir, elle prie que si Dieu la bénit en lui donnant ce fils, elle lui redonne. Je trouve c'est magnifique comme prière. Anne, elle demande sans rien exiger pour elle. Anne, elle prie sans rien vouloir garder pour elle, même pas sa sécurité financière qu'aurait donné ce fils si elle le rend à l'Éternel. Alors notez une petite l'histoire du rasoir qui passe sur la tête, c'est pas pour donner un style capillaire à son fils, hein. C'est juste que à cette époque-là, quand on donne cette expression, c'est pour dire on le consacre complètement, comme Jean-Baptiste qui a précédé Jésus, c'est ce qu'on appelle un naziréen. Voilà, petite, ne nous trompons pas sur le rasoir. Quelle leçon pour les premiers lecteurs qui demandent à Dieu en exigeant des bénédictions, la paix, la sécurité. Comme si leur vie médiocre de piété méritait finalement quelque chose. Bah, l'auteur, il nous encourage à demander à Dieu sans rien exiger. Dans notre faiblesse, abandonnons-nous à Dieu. Dans notre faiblesse, abandonnons-nous à Dieu. Ça me rappelle à un moment difficile dans notre vie avec Lise, mon épouse, où ça faisait 2 ans que nous étions mariés et pas d'enfants, stérilité, et on se retrouvait un petit peu dans le cas d'Elkana, et surtout d'Anne, dans cette souffrance. Et un jour m'est venue l'idée de prier en lisant ce passage. Je me suis dit, mais en fait, prie comme Anne. Prie que ce fils, si Dieu veut que tu en aies un, il soit consacré à l'Éternel. J'ai fait cette prière et c'est pas exemplaire, mais en tout cas, j'ai essayé de faire cette prière-là. Et aujourd'hui, mon fils, Yann, le grand, il a 18 ans, il vient d'avoir son bac et tout ça. Il est baptisé, il suit le Seigneur. Il est un gars qui adore amener tous ses copains à l'église et ses amis à droite, à gauche. Et il suit la parole, il est ancré en Dieu. Et je trouve que c'est chouette de voir que Dieu peut répondre à des prières, un peu comme celle-là. Dans notre faiblesse, abandonnons-nous à Dieu. C'est pas nous qui gérons, c'est Dieu qui gère. Et je remarque que la prière d'Anne, c'est le pivot de toute cette histoire. Il y a la vie d'avant pour Anne, cette prière avant et après. Et je propose qu'on puisse voir dans la fin de notre passage, les versets 12 à 28, en quoi cette prière a transformé la vie d'Anne. Verset 12. « Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, on n'entendait pas sa voix. » Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit « Jusqu'à quand seras-tu ivre? Va cuver ton vin !» Anne répondit « Ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est le trop-plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit « Pars en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle répondit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Cette femme s'en alla. Elle se remit à manger et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils partirent et retournèrent chez eux à Rama. Elkana eut des relations conjugales avec Anne, sa femme, et l'Éternel se souvient d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devient enceinte et elle mit au monde un fils qu'elle appela Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa famille offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et accomplir son vœu. Mais Anne ne remonta pas à Silo. Elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sevré, je l'y conduirai, afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il y reste là pour toujours. » Son mari Elkana lui dit, « Fais ce qui te semblera bon. Attends de l'avoir sevré. Seulement, que l'Éternel accomplisse sa parole. » La femme resta donc là et elle allaita son fils jusqu'au moment de son sevrage. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle à Silo. Elle prit 3 taureaux, 22 litres de farine et une outre de vin. Elle conduisit l'enfant à la maison de l'Éternel à Silo alors qu'il était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit. Mon Seigneur, c'est moi qui me tenais ici près de toi pour prier l'Éternel. » C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et il se prosternera devant l'Éternel. Je ne sais pas si vous avez vu ce changement qui apparaît. Moi, j'observe un premier changement, c'est la relation que Anne, femme simple du peuple, qui jusqu'à là était passive, comment elle l'échange avec le grand prêtre de l'Éternel, Élie. Anne répond avec courage et respect. Elle subit plus le drame qu'elle vit depuis sa prière. Fini la passivité. Alors Élie, vous avez vu, il pense qu'elle a trop bu. La raison n'est pas donnée. On peut imaginer que c'est habituel en ces temps de fête, peut-être. Mais je remarque que l'auteur n'appuie pas sur ça. L'auteur la présente Élie comme quelqu'un qui se trompe dans son jugement, en contraste avec Anne, qui est dans une fervente prière longue envers son Dieu. Alors mettons-nous à la place d'Anne. Qu'auriez-vous répondu à la place d'Anne à une accusation comme ça, aussi injuste? Est-ce qu'elle pleure comme avant? Non. Il y a le commentaire « Plaire au Seigneur » qui note que Anne, en fait, elle est immergée dans la présence de son Seigneur. Ne crains pas de corriger avec respect le propos injuste de cette illustre personne, qui représente l'autorité même de Dieu. Donc elle le fait avec respect, mais elle le dit quand même. Je trouve que c'est un super exemple pour nous. Si on a été blessé par quelqu'un, imaginez, ça n'existe probablement pas, mais vous avez été blessé par un des responsables de l'église de Saint-Maur. Quel encouragement de pouvoir échanger avec respect, avec amour, mais pas avec crainte, pas ne rien dire, juste dire les choses avec tact. Ayons ce courage de Anne pour ne pas nous rebeller, envenimer les choses. Ça peut être pareil aussi avec nos aînés qui sont à l'église à côté, sinophones. On aime bien respecter nos anciens. Peut-être qu'il y a des fois des paroles qui nous ont blessés. Et ayons ce courage et ce tact d'Anne avec beaucoup d'amour de dire les choses. Mais attention, ne tombons pas dans le même piège qu'Élie. Ne soyons pas hâtifs sur le jugement. Ne regardons pas vite fait à ce qui est apparent. Et puis, on commence à juger la personne. Ce que j'aime beaucoup, c'est la façon dont Élie finit cette histoire. Vous avez vu comment, verset 17, il réagit, Élie, alors qu'il s'est trompé. Anne le reprend et en fait, il dit « Pars en paix, pars en paix ». Et je prie que la communauté de Saint-Maur soit reconnue pour cette façon d'agir, de se parler et de finir ces échanges comme Élie, par en paix. Et je ne sais pas si vous avez remarqué le magnifique fin de cet échange. Qu'est-ce qu'elle fait, Anne? Elle se remit à manger. Alors ça peut être un détail, mais en fait, c'est sous-entendu, elle se remit à manger les sacrifices de communion. Elle est en communion de nouveau avec l'Éternel. Là où jusqu'à là, elle ne pouvait même pas manger le sacrifice de communion, d'être en relation intime avec son Éternel, avec son Dieu. Maintenant, depuis qu'elle a fait cette prière, changement radical, elle est en communion avec son Dieu. Et c'est ça qui est le plus important pour Anne. Le plus important pour Anne, ce n'était pas forcément l'amour de son mari, c'est très très chouette, ce n'est pas celui-là, ce n'est pas ça, ce n'est pas de subir et de voir comment je gère les insultes de Pénina. Le plus important pour Anne, et qui lui faisait le plus mal, c'est de ne pas être en relation intime avec son Dieu. C'est ça le plus important. Seul Dieu fait sa joie complète, pas le plan des hommes. Seul Dieu fait la joie complète de Pénina. Et je trouve ce qui est beau, c'est que vous avez vu après son visage. Ça se voit des fois quand on a la joie, son visage n'est plus le même. Quel contraste avec son visage avant la prière qui était plein de larmes. Maintenant, son visage n'est plus le même. Alors, est-ce qu'elle a déjà son fils ? Non. Est-ce qu'elle est même enceinte ? Non. Pourquoi alors son visage a changé ? Qu'est-ce qui l'a transformé ? C'est parce qu'elle a l'assurance pleine et entière que Dieu est au contrôle et qu'il va lui rendre cette paix. Confier son avenir à Dieu par une prière, ça transforme la vie en apportant cette paix. Alors je propose de prendre quelques instants maintenant pour réfléchir à notre dernière prière qu'on a pu faire peut-être au milieu du désarroi. Peut-être qu'aujourd'hui la vague est passée, mais comment j'aurais pu prier ? Comment je pourrais maintenant prier dans ce désarroi qui est peut-être encore pour certains là ? Avec cet exemple. Prenons un instant pour réfléchir à ça. Il y a un deuxième changement profond qui s'opère, et celui-là, il saute aux yeux, vous avez vu, Dieu l'a béni. On a tous vu le passage, il lui permet d'avoir quoi ? Ce fils tant espéré. Alors, une prière comme ça, face au désarroi, n'est pas automatiquement honorée, comme c'est le cas ici. Mais Dieu, il se plaît, il me semble, à honorer des prières de personnes qui veulent juste faire sa volonté, et non la nôtre. Dieu honore ça. Ça me rappelle un souvenir quand j'étais en 2018. Je priais, je travaillais beaucoup. Je travaillais à Auchan, je travaillais 12 heures par jour. Je priais beaucoup avec mon épouse que, en fait, Dieu puisse me permettre d'avoir du temps. On voulait servir plus l'Église. Je servais déjà les collégiens, mais j'avais des journées très, très remplies en travaillant beaucoup. Et on faisait juste cette prière avec mon épouse de « Seigneur, si c'est ta volonté que je puisse avoir un travail où il y a moins de temps au travail, pour que je puisse passer plus de temps à te servir à l'Église. » Et Dieu a honoré cette prière. Pas obligatoire, mais il l'a fait. Il m'a permis d'avoir un travail où j'ai trouvé, entre le temps de trajet et le temps de travail, 3 heures de moins par jour. Et Lise me dit toujours, mais en fait, tu as consacré plus que 3 heures pour l'Église à partir de ce moment-là. Donc voilà, ce n'est pas forcément un gain de temps, mais c'est une prière qui est juste dans un cœur qui permet de dire, « Seigneur, je veux faire ta volonté et non la mienne. » Et peut-être que dans nos désarrois, Dieu nous appelle, t'appelle à faire une prière. Seigneur, je veux faire ta volonté et non la mienne. Confier son avenir à Dieu par une prière transforme la vie en apportant des bénédictions. Et parfois, elles sont inattendues parce que dans ce boulot-là, j'avais accepté d'être payé moins cher, mais il y a eu des primes qui fait que j'étais mieux payé. Dieu bénit. C'est son choix. Confier son avenir à Dieu transforme la vie. Le troisième changement, vous avez vu, c'est la gratitude d'Anne envers son Dieu. Comment on le voit ? Anne, elle ne voulait pas seulement un fils, en fait, elle voulait qu'il soit capable d'être confié à l'Éternel, au service de Dieu. Et c'est pour cette raison, en fait, qu'elle attend qu'il soit sevré, donc il est plusieurs mois, même années, 3 ans probablement, c'est pour cette raison qu'elle ne remonte pas tout de suite à Silo, parce que le jour où elle veut remonter à Silo, c'est pour que son fils soit prêt à être consacré pleinement à Dieu. Et s'il est en sevrage, elle ne peut pas. Voilà pourquoi elle le fait. Et qu'est-ce qu'elle fait au moment où elle remonte à Silo et qu'elle confie son fils à l'Éternel ? Elle va offrir des sacrifices. Alors, petit détail technique, quand on lit l'Ancien Testament, c'est que c'est des sacrifices qui sont bien plus importants que ce qu'elle aurait pu donner. Pourquoi ? Parce que Anne, elle a un cœur plein de gratitude. Elle est reconnaissante envers son Dieu pour tout ce qu'il a fait pour elle. Confier son avenir à Dieu par une prière transforme la vie. Ça donne la paix devant le jugement des hommes, ça apporte des bénédictions et ça nous pousse à être dans une gratitude envers notre Dieu si bon. L'auteur nous raconte cette petite histoire d'Anne qui présente à Dieu des prières et des supplications à Dieu seul, qui pouvait la sauver de quoi ? De la mort sociale. Anne, elle a été sauvée de cette mort sociale en confiant à Dieu son avenir. Quel changement cela lui apporte dans sa vie à elle ? La paix l'envahit. Puis Dieu la bénit. Et elle devient même une source de bénédiction pour son peuple à travers ce prophète Samuel qui va permettre de nommer aussi les rois qui sont derrière. Enfin, on va lire la suite du livre. Il y a, je trouve, un bel encouragement dans ce passage pour ceux qui vivent ces moments difficiles, par ceux qui passent par des moments difficiles, pour ceux qui veulent encourager un frère ou une sœur qui passe par des moments difficiles. Confier son avenir par une prière transforme la vie. Et cette petite histoire illustre et évoque finalement merveilleusement la grande histoire de l'humanité. L'humanité qui, quand vous voyez l'actualité, il n'y a pas besoin de faire de grands dessins, est complètement noyée dans le péché, complètement noyée dans la souffrance, la guerre, l'insécurité. Mais devant son peuple en désarroi, soumis à la honte, méprisé, Dieu il va intervenir d'une façon encore plus miraculeuse que dans ce passage. Dieu il va intervenir en faisant venir un autre fils, qui lui aussi était vraiment attendu depuis des centaines d'années. Un fils qui va devenir un roi, et qui, contrairement à tous les rois qu'on peut voir dans l'Ancien Testament, va apporter la paix et la sécurité. Un fils qui viendra source de bénédiction pour le peuple de Dieu. Un fils qui ne laissera jamais influencer par les autres, malgré les difficultés de sa vie. Un fils qui va confier son avenir à Dieu par une prière. Et je remarque que cette prière que fait ce fils marque aussi un tournant pour l'humanité. Alors là, vous avez vu, la prière fait un tournant pour la vie de Anne, et la prière que ce fils fait va marquer un tournant pour l'humanité. Vous savez quand est-ce qu'elle a lieu, cette prière qui marque un tournant pour l'humanité ? Ce fils, il sera dans un jardin un soir, alors qu'il souffre d'angoisse tellement forte qu'il a des grumeaux de sang qui coulent le long de sa tête. Angoisse très forte face à son avenir. Ce fils, il est en pleine communion avec Dieu le Père. Ce fils, il présente à Dieu des prières et des supplications à Dieu seul qui pouvait le sauver d'une mort, et pour le coup d'une vraie mort, d'une mort horrible. Oui, c'est une mort qui est horrible parce qu'elle est imméritée. Lui qui est juste, sans péché, condamné comme un vulgaire assassin. Mais ce sacrifice que ce fils va faire sur cette croix, elle va permettre de payer le prix des péchés de vous, de moi, de tout ce qui se confie en ce fils. Elle va faire un tournant dans nos vies, parce que le jour où j'ai changé et j'ai choisi de suivre ce fils, il y aura un tournant radical dans ta vie, dans ma vie. Ce fils, vous l'avez retrouvé, c'est Jésus. Jésus qui a fait cette prière dans ce jardin. Une prière qui va tout changer. Une prière sans laquelle nous n'aurions pas accès à une relation éternelle et de paix avec Dieu. Une prière qui va être source de bénédiction, de vie et de paix pour beaucoup. Une prière qui abandonne tout à Dieu. Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. Voilà la prière qui change radicalement l'humanité, qui a une offre gratuite de pardon de ses péchés et qui permet une relation retrouvée, une pleine communion retrouvée avec son Seigneur et son Sauveur et avec Dieu le Père. Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe, toutefois que ta volonté soit faite et non la mienne. Je propose que nous puissions prier maintenant avec un cœur de gratitude, tout comme l'a fait Jésus, qu'on puisse confier nos désespoirs, nos désarrois du moment avec cette prière que Jésus fait, qu'on puisse la faire nôtre dans notre cœur. Je propose d'incliner notre tête et de prier. Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe, ces désarrois, cette insécurité, ces doutes que j'ai, cet avenir incertain. Seigneur, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. Que ta volonté, Seigneur, soit faite pour qu'on puisse juste apporter la gloire qui t'est due. Toi qui as choisi de passer par le déshonneur, être méprisé par les hommes, pour pouvoir offrir ton corps en sacrifice, pour payer mes péchés, mes fautes, toutes les fois où la communion avec Dieu, c'est pas parce que Dieu m'a abandonné, c'est parce que j'ai abandonné Dieu, parce que j'ai déshonoré Dieu, j'ai méprisé Dieu. Et ce Fils, Jésus, est venu pour payer tout ça, sur cette croix. Seigneur, que dans nos cœurs, on puisse être maintenant plein de gratitude, parce que pour tous ceux qui ont choisi de suivre ce Seigneur Jésus, de lui confier sa vie, on peut dire que notre avenir est certain, notre sécurité est certaine, notre joie est certaine. Tôt ou tard, on sera dans une joie où il n'y aura plus de pleurs, plus de larmes, plus de tracas, plus de désarroi. Et tous les vides de nos cœurs seront remplis, Seigneur, remplis par la joie et l'amour que tu nous portes. Alors Seigneur, que dans ce temps qui nous sépare de ce plein amour dans lequel on va vivre, le jour où on sera devant toi, que nous puissions mener nos pas dans cet été avec cette prière, avec cette certitude que tu es un Dieu bon et que en contrepartie, on veut juste te dire non pas ta volonté, non pas notre volonté, Seigneur, mais ta volonté. Je prie au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.